C'est un truc moderne.
Oui.
Alors, bonsoir Santiago Pombo.
Bonsoir.
Petite question pour commencer. Pourquoi et pour qui écrivez-vous ?
Mais pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup la lecture. J'aime beaucoup la littérature en général en tant que lecteur. Donc, petit à petit, et quand j'ai commencé à être un grand lecteur, mmh. et puis encore et encore et encore, avec une grande voracité, et est arrivé le moment où j'ai eu envie de participer dans ce monde-là, mmh. d'une façon beaucoup plus active. Et donc, je commençais à imaginer des histoires qui faisaient suite au livre que j'étais en train de lire, avec le même personnage, avec le même style. J'étais très jeune, donc j'inventais des chapitres, par exemple, avec le même personnage et le même style d'un roman que j'ai aimé. Et petit à petit, comme ça, je commençais à imaginer des histoires pour moi. Mais c'était surtout pour appartenir à ce monde que j'ai aimé à l'époque et que j'aime encore. Et pour qui ? Pour tous ceux qui vivent dans ce monde-là.
Vous avez des auteurs phares, des auteurs qui vous inspirent particulièrement ?
Oui, bien sûr. J'ai des auteurs comme lecteurs que j'adore, mais qui pas forcément sont importants pour mon écriture. Et ça, c'est bien parce que quand on est écrivain, des fois, on lit les romans et pour voir comment ils ont écrit. Et donc, on perd une certaine naïveté nécessaire pour le plaisir de la lecture. Donc, il y a des écrivains que j'ai lus seulement pour le plaisir de le lire. C'est le cas de García Márquez, par exemple. Moi, García Márquez, je n'écris pas du tout. C'est très dangereux pour un écrivain et ça s'approcher parce qu'on devient vraiment un imitateur. Mmh. Et c'est très facile de devenir un imitateur. Puis il y a d'autres comme Vargas Llosa, par exemple. Okay. C'est un écrivain dans lequel on peut apprendre énormément de choses. Donc Vargas Llosa, oui, j'ai lu Vargas Llosa avec un papier à la main, avec un stylo à la main, en prenant des notes. J'ai lu Graham Greene, j'ai lu Borges, j'ai lu Malraux. Il y a beaucoup dans la littérature française, Balzac. Je crois que Balzac, c'est le romancier plus haut qui existe dans l'histoire du roman. Et beaucoup plus pour moi important que même que Cervantes. Et ça, on ne peut pas le dire comme ça à tout le monde. Et je crois que Balzac, c'est vraiment ce qui est le plus haut dans le roman. Lui aussi, je l'ai lu en prenant des notes.
D'accord. Alors, vous êtes un grand voyageur, Colombie, France, Inde, Yougoslavie, Chine, Italie, et tant d'autres encore sûrement. Quelle culture et quel pays vous a le plus agréablement surpris ? Et inversement, quel choc culturel a été le plus violent pour vous ?
Bon, et les chocs plus violents, c'est peut-être... rentrer à mon propre pays après avoir connu le monde et retrouver une société un peu complexée avec des très petites points de vue, ça, avec une espèce d'image d'elle-même très enfermée. Je pense que quand les pays souffrent comme le mien, tellement, les sociétés deviennent très égocentriques. C'est un peu comme les malades chroniques. Qui commencent à. Un malade chronique croit que lui, il est le centre du monde. Et que le monde doit quelque chose, que la ville doit quelque chose, doit à lui quelque chose. C'est un peu cela qui m'a le plus frappé. Mon propre pays, et après avoir fait un peu le tour du monde, que pour moi, faire le tour du monde, c'est faire le tour des différentes cultures, des différentes expériences, avoir connu l'abondance et la beauté, comme on fait en Europe, mais aussi l'arrogance, aussi la violence, et avoir connu la vie à travers le monde. La maladie, pauvreté, la guerre, la mort. C'est tout ça qu'on apprend dans les voyages. Et moi, j'écris sur ce que j'ai vécu et j'ai appris pendant mes voyages.
Et vous avez donc un pays que vous préférez en particulier ?
Un pays
qui vous a surpris agréablement, oui ?
Un pays spécifiquement, non, j'aime beaucoup le Mexique par exemple. Je crois que le Mexique, comme disait un écrivain argentin, le Mexique c'est le pays où les écrivains vont vivre, au moins les écrivains hispanophones. J'espère un jour vivre au Mexique. Puis il y a d'autres pays qui m'ont... Moi, quand je vais dans un endroit, je n'ai pas une idée formée, et une idée conçue déjà. Et parce que je n'aime pas arriver à chercher quelques images déjà conçues. J'aime bien arriver et voir ce qu'il y a. Et donc, même si les villes sont pas très jolies, même si c'est des endroits difficiles avec une complexité, moi, ça m'intéresse énormément. En plus, parce que moi, j'ai vu que la complexité, la difficulté, parfois aussi la saleté d'une ville n'est pas en rapport avec les paysages humains. Et souvent, les villes les plus horribles, quand on arrive et on voit vraiment rien de beau sur quoi poser les yeux, ensuite, peu à peu, il y a une certaine beauté qui émerge dans les gens. Et très souvent aussi, c'est le contraire. Dans une ville délicieusement belle, merveilleuse, qui sont d'une beauté extraordinaire, après, c'est une certaine horreur qu'on voit, et justement aussi dans émerger dans les paysages humains.
Est-ce que vous vous inspirez, pour la plupart de vos personnages, est-ce que vous vous inspirez de personnes que vous avez réellement rencontrées ?
Non, pas forcément. Et des fois, oui, mais pas forcément. Je pense que la source principale de mes personnages, c'est ma propre vie. Et puis, ceux qui ont été autour de moi, plus ou moins... rapprocher, mais pas, et je ne fais pas de l'autobiographie, je ne fais pas de la biographie des personnes que je connais, mais je prends certains traits. Et puis on a dans la mémoire une collection gigantesque des situations humaines, parce que quand on vit, on doit savoir ce qu'on preuve quand on revoit quelqu'un qu'on aime beaucoup depuis des années. Et donc on se prend dans les bras, ou un ami qu'on a perdu, on le récupère. Après, on peut écrire ça avec d'autres personnages. Mais il faut avoir d'abord vécu.
Et je vais intervenir. Dans Nécropolis, par exemple, vous utilisez le motif d'Edmond Dantès. Comment vous vous situez, vous, dans la littérature, par rapport à la littérature ? Parce que, bon, vous n'utilisez pas forcément des personnages, des personnes que vous avez rencontrées, mais cette...
La littérature aussi, oui.
Cette histoire de reprendre quelque chose dans
un livre. J'aime énormément déjà les Nécropolis. C'est un grand dialogue avec Decameron, Bocas. Et puis, à l'intérieur, il y a aussi des relations, des rapports avec d'autres livres que j'aime. Parce que je me suis rendu compte que le type d'écrivain que je suis, parce que tous les écrivains sont différents, j'ai la théorie qu'un écrivain est toujours le premier écrivain. Parce qu'il doit inventer une façon d'être écrivain qui n'existait pas. Autrement, c'est pas la peine de le faire. Et c'est pas tellement difficile, parce qu'on est tous différents quand même. On a tous les mêmes éléments dans le visage. Ils sont très peu, sur des yeux, et pourtant on est tous différents aussi. Donc c'est pas tellement difficile d'être différent au reste du monde. Mais pour moi, la façon d'être écrivain, ou une des façons d'être écrivain, est rentrer dans un dialogue avec les livres de la littérature classique que je considère qui ont touché quelque chose d'important. Parce que pour moi, la littérature, c'est ça. C'est pas amuser un lecteur, le faire oublier ses problèmes. Et c'est peut-être même deux fois lui poser des problèmes mm-hmm. aussi. Parce que moi, je crois à la littérature comme une espèce de mouvement de l'intelligence aussi, de la reconnaissance. Et il y a un plaisir dans la reconnaissance de au moins, moi comme lecteur, j'ai un grand plaisir quand j'ai cette espèce de défi et de miroir brûlant deux fois et qui me pose un livre. Donc c'est les gens de littérature que j'aime, ou que j'essaye de faire.
Le statut de l'étranger, les sentiments de l'émigré vous semblent vous préoccuper particulièrement dans vos livres. Ça parle toujours de voyage, de gens qui voyagent, de gens qui ne sont pas sur leur territoire. Pensez-vous que le statut de l'étranger, l'appréhension de l'étranger diffère beaucoup selon les pays?
Oui. Mais moi, je ne suis pas étranger. Et ça, je tiens à signaler, parce que pour moi, les étrangers sont ceux qui ne sont pas colombiens. Non, c'est une blague. Oui, j'aime bien être un peu en dehors du monde dans lequel je suis tranquille, protégé. D'ailleurs, je suis parti de chez moi à 19 ans. Et je ne suis pas parti pour aller dans les quartiers à côté. Je suis parti pour aller à Madrid, de Bogota. Donc, j'ai toujours aimé aller loin, en fait, là où personne ne me connaît, là où je suis anonyme, complètement anonyme. Et ça, c'est très important aussi pour moi et pour mon écriture. Moi, je pense que je suis convaincu que si j'avais resté en Colombie quand j'avais 19 ans, je ne sais pas si j'aurais écrit. Parce que j'avais une telle. J'avais un monde très harmonieux, je dirais presque parfait. Et j'avais très envie de sortir de cette espèce de cage dorée. Oui. Mm-hmm. J'avais des parents qui étaient des intellectuels, profs de l'université, qui comprenaient tout ce que je voulais faire. Et donc, j'ai dit non. Eux-mêmes, ils m'ont poussé à dire, ok, prends ton chemin, allez, vas-y. Comme Paul Theroux, un écrivain de voyage américain, disait, le seul conseil qu'on peut donner à un jeune écrivain, c'est lis beaucoup de livres et laisse 20 ans.
Voyage. Vous vivez à Rome?
Ah, maintenant je vis à Rome.
Vous avez choisi cette ville parce que c'est une ville littéraire, parce qu'elle est emblématique de l'Europe?
Jamais. Non, je ne ferai jamais ça. Je l'ai choisi d'une façon rationnelle parce que de l'autre côté je ne suis pas du tout un homme riche et donc je crois que seulement quelqu'un avec beaucoup de moyens peut choisir une ville comme ça pour dire bon, j'aime bien l'art, j'aime bien l'opéra et puis alors je vais vivre. Non, et ma vie, mon chemin, mon parcours m'a déposé un peu, m'a fait arrêter dans certains endroits plus que dans d'autres. Mais je rien pour la vie. Hein. Je suis à Rome, j'aime beaucoup l'Italie, j'aime bien ses côtés chaotiques. Oui. J'aime pas les pays. Enfin, j'ai vécu en France pendant 10 ans, bien sûr. Mais j'aime pas trop les pays dans lesquels tout le monde est conscient de la. Je sais pas, un peu de l'ordre, de la clarté. J'aime bien un peu le côté sombre dans certaines sociétés. Je sais que c'est pas du tout. Des fois, c'est pas du tout la meilleure façon de vivre. Mais le pays dans lequel tout est parfait, comme la Suède, ça m'intéresse pas du tout.
C'est là qu'il y a le plus de suicides, de toute façon.
Mais maintenant qu'il y a des romans noirs et qu'on voit qu'à l'intérieur de chacun de ces personnes tellement propres, tellement bien, il y a un petit enfer. Ça, là, peut-être, ça commence à m'intéresser. Mais pour l'instant, c'est genre de pays où tout le monde a tout, tout le monde est.
Ça
ne me touche rien du tout. Alors que des pays chaotiques, il y avait plein de. L'Inde, pour moi, c'est vraiment. Parfois, c'était même trop pour moi.
Dans Nécropolis, par exemple, vous avez choisi Jérusalem.
Oui.
Parce que justement, c'est une ville chaotique.
Oui, et c'est... Oui, ça c'est... Je crois que là où il y a le mélange typiquement méditerranéen, il y a toujours un mélange très riche, qui enrichit énormément la vie d'une ville. Donc, Jérusalem, c'est le centre de la... C'est le centre de la Méditerranée. C'est le centre de la culture occidentale. C'est le centre du monothéisme. Okay, je crois que le catholicisme n'est pas monothéiste.
Oui. Mais bon. Ah, le catholicisme n'est pas monothéiste.
Moi,
c'est intéressant.
Pas.
Ça
m'intéresse. Ben non, parce qu'on a le monothéisme, c'est le judaïsme et l'islam. Dans le catholicisme, on a énormément de dieux et sur-dieux, et quand on arrive au Vatican et on regarde en haut, on a tellement de personnages à reconnaître. Et comme dans un temple hindouiste et comme dans une religion comme l'hindouisme, qu'ils ont 3 600 000 dieux.
Ah, oui.
Nous, dans le catholicisme, il y a peut-être moins, mais quand on regarde en haut au Vatican, on a l'impression que du monothéisme, il n'y a rien. C'est la même chose que dans un temple hindouiste.
Oui, c'est comme une mythologie.
Oui. Oui. Donc, on doit être bien avec énormément de gens. Alors que les vrais monothéismes, c'est le vide. C'est quand on rentre dans un endroit et c'est vide. Ça, c'est le judaïsme et ça, c'est l'islam. Mm-hmm.
Très intéressant. Vous semblez justement toujours vous placer en tant que témoin objectif qui réfléchit et analyse les situations, les caractères, l'histoire, la religion, comme vous venez de le montrer, la politique, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de recul. Est-ce que c'est la base de votre création fictionnelle?
Pas forcément. Moi, j'ai des idées sur le monde dans lequel je vis, bien sûr, parce que je lis la presse, parce que j'ai fait du journalisme pur et dur. J'étais pendant 7 ans correspondant d'un journal El Tiempo en Colombie et à Paris. J'étais en Bosnie pendant la guerre, j'étais en Algérie. Enfin, j'ai fait du journalisme sur place, dur. Puis maintenant, j'ai fait... Bon, ça y est, maintenant, j'ai risqué, j'ai tout fait. Maintenant, j'ai fait de l'opinion que c'est quand même risqué. Parce que j'ai des problèmes aussi là-dessus. Mais j'ai des idées, bien sûr, parce que je lis, parce que je m'intéresse en tant que citoyen, en tant qu'écrivain aussi. Des fois, l'écriture, c'est pour moi aussi une certaine façon de résistance vis-à-vis de choses de la réalité qui me semblent injustes, qui me semblent agressives, inhumaines. Donc, dans le monde de la littérature, il y a toujours cette puissance. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'image de l'intellectuel français. Qui ici en France, et l'image de l'intellectuel engagé, etc., c'est quelque chose que nous, en Amérique latine, on a énormément hérité. C'est un héritage positif.
Oui, c'est Malraux, vous parlez de Malraux.
C'est Malraux, c'est Sartre, c'est Bernard-Henri Lévy, pour dire, même si je ne suis jamais d'accord avec lui. Mais bon.
Mais vous vous considérez quand même comme un artiste? Est-ce que pour vous, un écrivain, c'est un artiste?
Bien sûr. Et un livre, un roman, un poème, c'est une œuvre d'art. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que c'est pas... O sea, comme toute l'art, c'est une fiction.
Oui.
C'est une version de la réalité fictive. Fictive.
Fictive.
Ah, je l'ai vu. Mais qui fait, peut-être... Mais pour le fait d'être fictif, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. C'est une version de la réalité, de la vie, des rapports entre les êtres humains et fictifs, mais qui amène des vérités très profondes. Et cette profondeur, on ne peut pas la avoir dans d'autres disciplines. Dans d'autres disciplines et avec l'écriture. Dans le journalisme, on peut arriver sur certains. Le bras du journaliste est peut-être plus long, mais moins fort. Non. un roman, un poème, une pièce de théâtre, tout ce qu'on peut écrire artistiquement est beaucoup plus fort.
Cela vous demande beaucoup de travail d'écrire. Vous êtes obligé de beaucoup réécrire ce que vous écrivez.
Oui, parce que je suis un romancier, donc et les romanciers, c'est la classe ouvrière de la littérature. On doit écrire tous les jours, 8 heures par jour. On finit et transpirer, on se fait une douche et on va prendre une bière au coin. C'est un ouvrier. Alors que le poète, c'est la noblesse. On écrit toutes les 2 semaines jusqu'à la moitié de la page.
Vous avez un premier lecteur? Un premier lecteur? Vous faites lire vos manuscrits à quelqu'un avant votre éditeur?
Oui, c'est un personnage pas du tout romantique et c'est l'agent littéraire.
Oui, vous avez un agent.
Mais moi, j'ai pas un. Ah oui, non.
Vous n'avez pas un ami qui lit vos manuscrits?
Non, parce que toutes mes amis, enfin pas tous, mais mes amis qui pourraient faire ça, c'est des écrivains.
Oui, c'est pas juste.
Et un écrivain ne peut pas juger le travail d'un autre écrivain comme ça. Et surtout un manuscrit, qui c'est fragile. Parce qu'après, je peux lire le livre d'un autre écrivain. Ça, c'est différent. Parce que je le lis comme un lecteur. Mais un manuscrit qu'on peut faire des annotations et tout ça, c'est très fragile. Et donc, si moi, c'est pour ça que j'ai dit tout le temps, non. Sauf si c'est des jeunes qui veulent. Alors là, c'est différent. Mais quand j'ai des collègues qui me disent une lecture, j'ai dit non, c'est évident que j'avais tout changé. Je veux dire que ça ne va pas, que pourquoi tu as mélangé ceci et cela, que le dialogue n'est pas incroyable, parce que je suis un écrivain. Mm-hmm. J'aurais fait autrement.
Vous semblez aborder assez aisément et assez crûment toutes sortes de sujets du quotidien, toute la misère du monde, et qui souffrent généralement d'un certain tabou. Est-ce qu'il y a quand même une thématique qui vous gêne, quelque chose que vous avez plus de mal à aborder et que vous aimeriez, mais ça vous bloque?
Peut-être certains sujets, mais là, dans le roman que je suis en train de faire, je le fais. Mais jusqu'à là, et certains sujets avec mon pays, directement. Mais je pense que la littérature que j'ai écrite, les livres que j'ai écrits, c'est des livres qui sont très liés à mon expérience. C'est pas. Et moi, je ne suis pas le type d'écrivain qui en a extraordinaire, comme Vargas Llosa, par exemple. Vargas Llosa, il n'a peut-être aucun rapport entre lui et ses personnages. Et lui, on voit Vargas Llosa, et Vargas Llosa, c'est quelqu'un. C'est comme un homme politique qu'il est aussi. Il a 4 ou 5 visages différents, mais il est toujours. Alors que ses personnages sont très différents à lui. Parce que lui, il fait des recherches et il a cette conception un peu, oui, flaubertienne de la littérature, qu'on doit, créer un personnage de la. Oui, presque comme un dieu, comme si on était un dieu. Alors que moi, je suis plutôt un écrivain d'autres types, plus ceux qui parlent, oui, ou même, par exemple, Miller, Henry Miller. Ou même Céline, je ne partage pas bien sûr ses idées politiques, mais c'est-à-dire des écrivains qui, leur écriture est très liée à ses obsessions, ses problèmes, ses expériences.
Vous avez des personnages.
Sans être biographique, bien sûr. Oui. Parce qu'on écrit de la biographie que quand on a au moins une soupçon de que la propre vie intéresse à quelqu'un. Ce n'est pas mon cas.
Vargas Llosa, il l'a fait quand même avec La Tia Julia.
Oui, c'est le seul, ouais. C'est peut-être le seul, et c'est un de ses livres que j'ai préféré.
Ouais. Ouais. Mais du coup, il n'a pas osé aller jusqu'au fond, c'est-à-dire il a intercalé
les
la fiction
des...
avec son propre truc. Parce je pense qu'il n'a pas voulu aller jusqu'au fond.
Ouais. Et quand il a voulu parler de lui-même directement, il a fait des mémoires,
ouais.
Des mémoires politiques. Mais quel écrivain, hein.
Je voulais vous demander justement si vous avez des personnages que vous détestez, que vous avez créés, que vous détestez.
Oui, je crois qu'il y a des personnages. Par exemple, dans Nécropolis, il y a un personnage, malheureusement c'est un Français, qui, c'est pas que je déteste. Je sais pas si je déteste quelque chose. En général, la souffrance physique, par exemple, bien sûr, je déteste avoir mal aux dents, ce genre de choses. Mais j'ai par exemple un personnage sur Necropolis qui c'est un écrivain que je vois beaucoup, disons, comment est-ce qu'on dit, métastasé sur d'autres, sur plusieurs, pas énormément, mais bon, que c'est l'écrivain qui devient une espèce de diva. Et de star qui est. Non? Donc, sur les Necropolis, c'est un peu le personnage des super-villes. C'est lui qui veut être à tous les coups publié, avoir succès, qui croit que son histoire c'est la meilleure, qui croit que. Ces gens d'écrivains, j'aime pas trop, mais je le comprends, parce que je sais que dans le monde de la littérature, c'est pas facile. C'est pas facile d'y croire. Et souvent, il faut prendre tout. Pour tenir et continuer, parce que c'est pas facile. C'est comme mettre la tête comme ça dans un trou, et de l'autre côté, il y a les gens, ils peuvent te donner des baffes, ils peuvent aussi t'embrasser des fois.
Une petite question très féminine. Est-ce que la création et la description psychologique des personnages féminins vous posent des problèmes?
Non, et par exemple, pas Necropolis, mais dans mon roman précédent, Les Syndromes d'Ulysse, dans lequel il y a énormément des épisodes et avec des personnages féminins et très sexuels. Et moi, j'avais très peur du jugement des femmes. Et parce que, bon, j'ai pas écrit le roman pour écrire ce genre d'épisodes, mais ce genre d'épisodes étaient nécessaire à ce que je devais écrire. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de force dans le roman. Alors moi, j'étais un peu curieux, j'avais un peu peur, j'avoue, parce que quand j'ai fini le roman, j'ai dit, bon, j'étais un peu presque dans le larme, parce que c'est un roman que j'ai fini et j'ai tellement mis de mon expérience et de moi. C'était une espèce de catharsis pour moi. Mais après, j'ai dit, ouf, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ça y est. Et j'étais très surpris parce que c'est plutôt les femmes qui l'ont su lire. Enfin, j'ai eu deux ou trois critiques sur un gigantesque bloc comme ça, des critiques plus ou moins neutres ou positives, mais seulement, je crois, trois critiques dans lequel il mentionne le fait qu'il y a une sexualité très, très violente, et c'est des hommes, c'est pas des femmes. Les femmes, elles adorent, ils me disent toujours, mais tu comprends bien les femmes, et très souvent, ils croient que c'est moi, et de temps en temps, j'ai des regards comme ça, un peu. Alors moi, j'ai dit non, c'est pas moi. Et j'ai très souvent une question posée par des femmes qui disent, et c'est biographique, en voulant faire une espèce de... Et moi, je réponds toujours, oui, mais seulement les épisodes tristes. Donc les femmes, non, au contraire. Je crois que les femmes sont ceux qui ont vraiment compris et ont suivi de en profondité ce qui était mon idée littéraire et aussi dans Necropolis, mais Necropolis n'est pas tellement posé sur ça comme Syndrome d'Ulysse.
Necropolis, il y a une figure féminine qui est extraordinaire, enfin, la star du porno, oui. Elle est, parce que c'est une madone en même temps, elle est magnifique.
C'est une femme qui a sauvé elle-même, oui. qui a trouvé une vie, un destin, une aventure, et qui a eu une telle force qu'il a même eu pour son mari, qui était détruit aussi. Et c'est, moi, j'ai toujours pensé qu'un homme, quand il est détruit, il n'y a qu'une femme qui peut le reconstruire. Mmh. Alors que les femmes se reconstruisent toutes seules. Donc, c'est un peu le cas dans mon histoire. Les femmes sont beaucoup plus fortes pour reconstruire. L'homme, il est génial pour détruire. Non? Donc, cette femme, oui, elle est une actrice pour nous, mais elle est quelqu'un de très, très, très enfin, active politiquement, même, et avec une force gigantesque. Elle est devenue une espèce de gigantesque personnage, et peut-être même aussi, elle référera la vie même du personnage principal de l'écrivain dans le roman Nécropolis. Donc c'est toujours les femmes. Et peut-être parce que je suis un homme. Je ne sais pas si une femme qui écrit croirait la même chose, mais on vit la vie individuellement. On ne fait pas des théories pour les autres. Ouais. Moi, je fais des théories d'après mon expérience et sur ce que je vois. Et pour moi, ça a été comme ça. Moi, quand j'étais dans des situations comme ça, c'est toujours les femmes redonner la vie.
Je viens de lire une nouvelle de vous, c'est l'homme qui tombait tristement toujours amoureux dans les aéroports.
Ah oui, c'est une comédie.
Et je me demandais si, parce que les personnages féminins sont présentés comme très manipulatrices et plutôt méchantes.
Bien sûr.
D'où vous est venue l'idée? C'est
non, parce
non comme
que,
ça.
Oui, non, la manipulation. Non, mais je crois qu'on est tous des manipulateurs. Mm-hmm. Sauf. Moi j'ai vécu comme peut-être vous avez vécu le contraire, et la manipulation, le chantage, etc. Et donc dans ces cas c'était des femmes, et c'était surtout une espèce de comédie amusante, mm-hmm. que j'ai imaginée pendant que j'étais dans des aéroports à l'époque où je voyageais énormément, pendant, en plus dans des endroits qui n'étaient pas du tout dans les circuits normaux. Par exemple, et quand j'allais en Bosnie pendant la guerre, il fallait attendre des heures et des heures. Les avions n'avaient pas une heure de départ. C'était juste, bon, oui. Est-ce qu'il y a un avion aujourd'hui? Oui, peut-être. Alors tu prenais une place sur le Hercules qui prenait l'aide humanitaire. Et peut-être tu attendais de 11 heures du matin, et à 8 heures du soir, ils te disaient non. On ne va pas y aller aujourd'hui.
Demain.
Voilà. Alors, je passais comme ça dans des tables à attendre, à écrire, à lire et à imaginer des choses. Et puis, en Yougoslavie, ben, j'étais très jeune, j'étais comme ça, je voulais connaître tout. Et en Yougoslavie, je vais dire une banalité, mais Yougoslavie, c'est un des pays où les femmes sont plus belles au monde. C'est une chose extraordinaire. Et même les hommes aussi, ils sont très beaux. Enfin, c'est une espèce de... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis, ils sont très hauts aussi. Je crois que statistiquement, c'est le pays avec la population la plus haute. Et donc, en laissant comme ça partir des idées, je commençais à écrire ces petites nouvelles qui, au fond, ce qui cache, c'est le désir d'être pris. Et pour toutes ces femmes très belles que je voyais dans les avions.
Oui. Alors, deux petites questions pour finir rapide. J'ai une professeure à l'université qui nous dit régulièrement qu'il ne faut jamais aller quelque part sans un livre dans sa besace. Sans un livre dans sa besace, dans son sac.
Ah oui.
Quel serait le vôtre, ou quel est le vôtre actuellement, aujourd'hui?
Et poésie. Pour les voyages, la poésie, c'est bien. Oui, donc... Et je ne sais pas, oui, ici on peut chercher, on peut trouver, je crois, le plus haut poète pour moi de la poésie en général, et c'est un espagnol, c'est Saint-Jean de la Croix.
D'accord.
C'est vraiment. Mais quand même, vous avez Rimbaud. Et Rimbaud, c'est pas.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Hein. Je crois que j'ai la théorie que tous les romanciers. Au moins, le type de romancier que je suis, on est fils d'un vers de Rimbaud, quand il dit « À l'aube, armé d'une ardente patience, nous rentrerons les villes splendides. » Et comme pour moi, le voyage est tellement important, j'ai toujours cru que les histoires que je vais raconter se passent dans ces villes splendides, décrites par, ou signalées par Rimbaud. Je crois qu'il a signalé une façon de voir le monde, la vie. Et moi, en tant que romancier, je crois comprendre de quoi il parle. Et j'essaye de suivre.
Et vous, vous mettez du côté des villes, et si on reprend Ardiente Paciencia, si assez bien, oui. Carmen, à lui, il avait pris plutôt ce, le truc de la patience, en fait, oui. De Rimbaud, plutôt que...
Oui, mais je crois qu'il a... Il a enfin, oui. Je vais être un peu dur, mais je crois qu'il n'a pas...
Il n'a pas compris.
Non, il a juste pris les titres, parce que Neruda a utilisé, ouais. Il a certainement même pas lu Rimbaud, enfin, je ne sais pas, mais Neruda, il cite ses vers... dans son discours des prix Nobel. Oui. Donc, c'est très connu en Chili, au Chili.
À cause de ça
je crois que c'est à cause de ça, parce que ça, n'a aucun rapport avec la réflexion profonde, oui. Qu'il fait Rimbaud avec ses vers. Il a pris juste les mots, mais pas le...
Lui, il est habillé pour l'hiver, c'est Carmita.
Il est...
En français, on dit ça, on dit il est habillé pour l'hiver. C'est-à-dire que bon, vous l'avez écarté en disant oui, Scarmetta, c'est pas terrible, c'est ça. J'ai pas d'action à
Scarmetta. J'aime pas parler des autres écrivains parce que, évidemment, enfin, j'aime bien parler des écrivains que j'admire.
Ouais, ça, c'est
Vargas Llosa. Alors que Scarmetta, je n'admire pas.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est à un autre niveau.
Ouais. Ouais.
Et surtout. À ces sujets-là, ça me semble qu'il joue dans une table de poker à 10 centimes, alors que Rimbaud est sur celle de 10 000 dollars.
Donc c'est un titre usurpé, c'est ça que
vous... Ah oui.
Ouais.
Et dernière question, vous avez des nouvelles idées pour vos prochains voyages, vos prochains écrits?
Oui, justement, je parle beaucoup de Rimbaud en ces jours parce que j'ai très envie d'aller faire un long voyage en Éthiopie.
D'accord.
Et donc, j'ai envie d'aller à Aden, à Harar, à tous les... Moi, je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyante, sauf pour la littérature. Et donc, les lieux sacrés, c'est les lieux où les écrivains ont trouvé des choses importantes. Et on écrit des choses importantes. Bon. Rimbaud avait déjà tout écrit avant, mais il a compris quelque chose qui l'a amené là-bas. Et j'ai envie d'aller voir.
Et votre prochain livre?
Ah, peut-être
pas. On va peut-être pas trop en dire.
Non, mais peut-être ça va être publié l'année prochaine. C'est un livre. C'est un roman avec toujours un dialogue avec un classique de la littérature italienne que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas comment il s'appelle en français. En italien, il s'appelle I promessi sposi, Los novios, le fiancé, Manzoni.
Manzoni.
Alessandro Manzoni. Oui. Et donc, c'est, ça pourrait être une histoire d'amour entre deux. C'est un peu l'histoire des deux qui veulent être ensemble et plein de choses empêchent. Et puis il y a quelqu'un qui disparaît, il y a un autre qui cherche. Il y a la Colombie, l'Asie, le voyage.
Voilà. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À vous.
Très, 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 très intéressant.
Merci à vous.